Pauline Kergomar. Née le 24 avril 1838 à Bordeaux, immense pédagogue à l'origine des écoles maternelles que nous connaissons aujourd'hui, issue d'une mère libraire et d'un père inspecteur des écoles. Née Pauline Reclus, elle est la cousine germaine du grand géographe Élisée Reclus et petite sœur de Noémie Reclus, institutrice et militante républicaine, figure de la commune. Injustement méconnue, il y aurait tant à dire sur les figures féminines de cette famille Reclus, toutes impliquées dans le domaine des sciences, de l'éducation ou de la recherche. Mais penchons-nous aujourd'hui sur la vie de Pauline Kergomar. Orpheline de mère à l'âge de 10 ans, elle fut envoyée en 1851 chez son oncle, le pasteur Jacques Reclus, dont la femme avait ouvert une pension école pour filles, une école sans programme qui marquera durablement l'enfant. Plus tard, elle intègre une institution privée laïque qui deviendra le cours normal d'institutrice de la Gironde. Une fois diplômée, elle dispensa alors des leçons au sein de familles protestantes de sa région. Son engagement sera grandement influencé par l'éthique protestante et un pasteur pédagogue, Charles Pélissier, qu'elle considérera comme son mentor. Devenue agnostique, elle écrira « Je suis une vieille huguenote, mais pas une chrétienne ». C'est en 1861 qu'elle décide de rejoindre l'une de ses sœurs à Paris. C'est dans cette même ville qu'elle va alors rencontrer son futur compagnon, Jacques Kergomar, un poète journaliste désargenté. Ils auront 3 enfants. En difficulté matérielle, Pauline Kergomar fait vivre son foyer en poursuivant sa mission d'enseignante qu'elle porte par-dessus tout. Et en écrivant, par exemple, pour un dictionnaire de pédagogie créé par Ferdinand Buisson, l'un des fondateurs de la LDH. Elle l'a rencontré par l'entremise des milieux républicains et de Dreyfusards, dont sa famille était proche. À la fin des années 1870, elle réalise l'un de ses rêves les plus chers, ouvrir un cours libre pour filles, et devient directrice de cette école privée. Ses méthodes sont révolutionnaires, l'école maternelle est donc conçue, dans un certain sens, par Pauline Kergomar, comme substitut de la mère. Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. Une pédagogie spécifique, donc, concentrée sur le développement physique et affectif de l'enfant. Elle introduit le jeu, dont elle dit dans l'école maternelle en France qu'il est le travail de l'enfant, son métier, sa vie. Elle introduit également de nombreuses activités artistiques, sportives. Elle prône une initiation à la lecture, à l'écriture, au calcul, à partir de 5 ans seulement. En 1879, sous l'impulsion et conseil de plusieurs de ses amis, dont Caroline de Barreau, figure féministe et femme de lettres, elle passe à 40 ans un examen d'aptitude à la direction, puis à l'inspection des salles d'asile. Ces asiles accueillaient des enfants de 2 à 6 ans, n'avaient pas vraiment de fonction pédagogique et disposaient d'un système disciplinaire extrêmement strict, d'après l'historienne Mélanie Fabre, très loin de l'affection maternelle, avec énormément d'enfants gardés par une ou deux religieuses, avec du catéchisme très régulièrement, l'utilisation de claquoirs pour les faire lever, s'asseoir, etc. Chez les pédagogues de la fin du 19e siècle, il y a une volonté de rupture par rapport à cet héritage. Le 1er mai 1879, elle fut donc nommée déléguée à l'inspection générale de ces salles d'asile. Cri d'orfraie, vous vous en doutez. Elle fit d'abord des tournées en France, visitant des écoles dans les coins les plus reculés. Puis, les budgets ayant diminué, elle dut réduire ses missions et exerça plutôt son action auprès des inspecteurs primaires d'arrondissement et dans des écoles normales de jeunes filles, où elle fit de nombreuses causeries. En décembre 1881, dans l'un de ses rapports adressés au ministre, elle fait un compte-rendu sévère de son inspection des écoles maternelles des académies de Toulouse, de Clermont ou encore de Bordeaux. Elle posa dès la première page une question. L'école maternelle est-elle une garderie philanthropique ou est-elle un établissement d'éducation et d'instruction ? Le dévouement n'est pas une méthode, dit-elle. Il faut des locaux réglementaires et un personnel suffisant et formé. Elle réclamait une inspectrice par département et proposait un programme de formation pour allumer le feu sacré dans les cœurs. Sous l'impulsion du ministère de Jules Ferry, c'est elle qui met tout en place pour transformer l'asile en école maternelle, qui porte ce nom, car celle-ci veut accompagner l'enfant de manière maternelle jusqu'à l'école élémentaire. Elle n'est plus uniquement une garderie ou un lieu qui relève de la charité, elle ne doit pas non plus être le lieu de gavage ou du dressage, pour reprendre le vocabulaire présent dans les archives. Elle doit être marquée par l'affection indulgente de la famille qui se prolonge dans la structure scolaire. Il y a vraiment l'idée qu'il faut enseigner à l'enfant plutôt l'éveil, un développement du corps, de l'esprit, de l'observation, de la vie qui l'entoure et non les pratiques qu'il retrouvera ensuite à l'école élémentaire. En même temps, en parallèle, son action s'exerce sur la presse pédagogique et surtout dans l'Ami de l'enfance, un organe bimensuel. Elle en tira deux volumes de l'éducation maternelle dans l'école où elle expose sa doctrine pédagogique, publiée en 1886 et en 1895. Pauline Kergomar participera également à la création de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, une des toutes premières associations laïques à venir en aide aux enfants et adolescents maltraités et l'ancêtre de l'actuelle Union pour l'enfance. Elle est l'une des premières femmes à obtenir la Légion d'honneur. Militante laïque et féministe, elle défend l'école mixte et fait abattre les cloisons qui séparent les garçons des filles dans les salles de classe. Dans un texte de 1897 paru dans le journal féministe La Fronde, elle dénonce l'éducation religieuse des petites filles. Elle savait, pour l'avoir lu dans leur livre, que l'humilité est la première vertu des femmes, car c'était par elle que le péché est entré dans le monde. Elle savait qu'il ne faut jamais regarder en face une personne d'un autre sexe et qu'elle devait voiler leur regard, comme quelques saintes dont j'oublie le nom lorsqu'elles rencontraient un homme. Elle savait qu'on ne doit jamais causer ni même s'amuser avec les petits garçons, car les petites filles, c'est de la graine de femme. Cette éducation a porté ses fruits amers, et maintenant, lorsque nous prêchons aux femmes la dignité de soi, la fierté, l'on nous accuse d'attenter à leur foi. En 1898, elle crée une université populaire dans le 14e arrondissement. Avec quelques amis, elle loua le local d'une loge maçonnique de la rue Froidevaux et elle mit dans le recrutement des conférenciers la même énergie que pour ses engagements précédents. Farouchement libre penseuse, elle montra des réticences quand l'université chercha à se rapprocher d'un certain socialisme. Elle est également membre du Conseil national des femmes françaises créé en 1901. Elle en présidera la section éducation de 1905 à 1920. Honorée, comme je vous le disais, du titre de chevalier de la Légion d'honneur en 1891, elle est promue officier en 1910. Son goût de l'action la pousse à rester en fonction jusqu'à l'âge de 79 ans, en 1917. Lors de ses obsèques en 1925, le philosophe, professeur d'université et défenseur de l'école laïque, Paul Lapie, prononça son éloge funèbre. En France, en 2015, 113 établissements scolaires, dont de très nombreuses écoles maternelles, portent le nom de Pauline Kergomar, ce qui en fait la troisième personne liée à l'enseignement, dont le nom est le plus souvent repris. En ces jours de rentrée scolaire agitée, à l'heure où l'instruction n'a plus les moyens d'enseigner et de transmettre correctement, et pour que ce combat vive encore, on ne peut que rendre hommage à des illustres personnages comme Pauline Kergomar. On pensera également à Élise et Célestin Freinet, digne héritier de sa pensée et de son engagement.